Et si doubler un budget marketing, c'était en fait la méthode la plus rapide pour mettre en faillite une boutique Shopify parfaitement rentable?
C'est une question qui fait mal, mais c'est la réalité.
Ouais, aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue qui a la vie vraiment très dure dans le milieu. Pendant des années, la règle d'or absolue dans l'e-commerce, en tout cas ce qu'on entendait partout, c'était le fameux ratio 70-30.
Le grand classique.
Voilà. En gros, 70% du budget alloué à la publicité payante et 30% au référencement naturel. Sauf que, en préparant cette exploration en profondeur et en épluchant nos sources du jour, on a découvert une réalité glaciale.
Complètement glacial, ouais.
En 2026, appliquer cette vieille recette américaine pour des fondateurs Shopify français, c'est littéralement détruire ses marges. Et je suis ravie d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a urgence.
Ah, je suis ravi aussi et je suis surtout très pressé de démonter ce dogme parce que c'est un massacre silencieux en fait. Et le pire, c'est que ça touche des entreprises qui ont des bases ultra saines à l'origine.
C'est clair. Et pour bien comprendre, on va s'appuyer sur un cas d'étude fascinant issu de nos documents, celui d'un fondateur qu'on va appeler Marc.
Un cas d'école.
Exactement. Marc a une superbe marque de cosmétiques bio. Franchement, ses fondamentaux feraient rêver n'importe quel e-commerçant. Il fait 480 000 euros de chiffre d'affaires annuel,
C'est très solide.
une marge brute de 32% et une marge nette de 15%.
Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Jusqu'au moment où il voit accélérer. Et oui, Marc fait ce que 99% des fondateurs font quand ils cherchent de la croissance, ils ouvrent les vannes en grand. Il décide de faire passer son budget mensuel sur Google Ads de 8 000 à 14 000 euros.
L'erreur fatale.
Et là, c'est le drame. Son retour sur investissement publicitaire, le fameux ROAS qui clignote sur son écran, s'effondre. Il passe de 4,2 à 2,6. Et face à cette chute, sa réaction est presque pavlovienne.
Il se dit qu'il faut compenser.
C'est ça. Il se dit, je cite, mes pubs coûtent plus cher, donc je vais rajouter du budget sur mon blog SEO à côté pour compenser, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait équilibrer 70% ads et 30% SEO.
Et c'est exactement cette réaction qu'il faut disséquer. Pourquoi ce réflexe est-il mortel aujourd'hui? Il faut déjà comprendre d'où vient ce fameux dogme du 70-30.
Bon, décortiquons un peu tout ça. D'où ça vient?
C'est un héritage direct des agences nord-américaines. Ça date de la période dorée du e-commerce, en gros entre 2014 et 2019.
Une autre époque, quoi.
Totalement. À l'époque, ça avait un vrai sens mathématique. L'écosystème reposait sur trois piliers qui ont aujourd'hui disparu. D'abord, les coûts par clic étaient dérisoires.
Ouais, on payait des clics à quelques centimes.
Exactement. Ensuite, les marques DTC, le direct consumer, faisaient des marges colossales parce qu'elles venaient de couper tous les intermédiaires physiques.
D'accord.
Et par conséquent, le ROAS restait structurellement bloqué au-dessus de 5, même quand on augmentait le budget de manière agressive.
Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus en 2018. Et surtout, on n'est pas aux États-Unis. Les données actuelles du marché français, elles montrent une toute autre réalité pour nos e-commerçants.
Absolument.
Dans le secteur de la beauté, par exemple, le coût par clic moyen a atteint 3,41 euros.
C'est énorme.
C'est une inflation de 60% en seulement 12 mois. Et la conséquence logique de cette hausse, c'est que le ROAS moyen en e-commerce s'est effondré à 2,87.
Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment la réalité rattrape Marc et sa décision d'investir 14 000 euros d'un coup. Franchement, faisons les comptes parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Vas-y, je sors la calculatrice mentale.
Alors, avec 14 000 euros injectés et un ROAS de 2,6, ça lui génère 36 400 euros de chiffre d'affaires.
Ok, 36 400 euros de vente.
Sur ces ventes, sa marge brute est de 32%, ce qui veut dire qu'il lui reste très exactement 11 648 euros de marge brute.
Attends, je refais le calcul. Il génère 11 648 euros de marge brute grâce à ses ventes. Mais l'outil publicitaire lui a facturé 14 000 euros pour obtenir ces mêmes ventes.
Eh oui.
Donc, en fait, avant même d'avoir payé la préparation des commandes, la logistique, ses propres salariés ou même d'avoir géré le moindre colis perdu, il a déjà une perte sèche de 2 352 euros.
C'est une catastrophe mathématique.
C'est terrifiant. C'est un peu comme conduire une voiture, tu sais, avec le moteur dans le rouge. Appuyer plus fort sur l'accélérateur quand on est déjà en sur-régime, ça fait pas avancer plus vite, ça brûle juste tout le carburant avant de casser le moteur.
C'est une très bonne image.
Mais la vraie question, la question psychologique en fait, c'est de se demander comment un chef d'entreprise intelligent peut valider une perte pareille tous les mois.
On touche au cœur du problème. C'est l'illusion de la croissance. Les fondateurs sont accros au volume, en fait. Voir le chiffre d'affaires augmenter sur le tableau de bord Shopify, ça procure une vraie décharge de dopamine.
Même si on perd de l'argent derrière?
Surtout que les outils d'analyse entretiennent cette illusion de rentabilité.
Ah justement, parlons-en de ces outils d'analytics. Parce que si je suis à la place de Marc, je regarde mon tableau de bord Google Analytics, mon fameux GA4, et il me dit que ma campagne est super rentable. Pourquoi l'outil me ment-il?
Alors, GA4 ne ment pas volontairement, mais il a un biais technologique massif. Par défaut, l'outil utilise une attribution qu'on appelle « dernier clic data-driven ».
Ça sonne très technique, ça.
En gros, le problème, c'est que ce modèle dépendait énormément des cookies tiers. Tu sais, ces petits traceurs sur les navigateurs web.
Ah oui, ceux qui disparaissent de partout avec les nouvelles lois?
Exactement. Avec la disparition de ces cookies et l'utilisation massive des bloqueurs de publicité, GA4 perd la trace d'énormément d'utilisateurs. Et pour compenser ce trou noir, les algorithmes font des déductions.
Des devinettes, quoi.
Voilà. Et ces devinettes finissent souvent par gonfler artificiellement les mérites de la publicité payante, avec une marge d'erreur de 15 à 40%.
Concrètement, ça veut dire que la pub s'approprie des ventes qui se seraient faites de toute façon sans la pub?
Complètement. Si une boutique n'a pas mis en place une attribution qu'on appelle server-side,
c'est-à-dire?
C'est une technologie où c'est le serveur de la boutique qui envoie la donnée réelle des ventes directement et non plus le navigateur web de l'utilisateur qui bloque tout. Bref, sans ça, les chiffres sont totalement faussés.
Et dans mes sources, on a un exemple très parlant là-dessus.
Oui, le cas de cette marque de compléments alimentaires. Le gestionnaire des publicités voyait un très beau ROAS de 3,15 sur son écran. Il pensait faire un carton.
Tu m'étonnes.
Mais quand les analystes ont isolé la véritable incrémentalité, c'est-à-dire les ventes qui ont été uniquement et strictement générées par ces pubs, le ROAS réel était de 0,76.
Waouh ! Donc pour chaque euro investi dans la machine, la marque perdait 24 centimes.
C'est ça. Sans s'en rendre compte.
C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ça nous amène au premier concept fondamental de notre analyse pour les fondateurs. C'est une métrique que presque tout le monde ignore, le coût marginal.
La métrique reine.
Ce n'est pas la moyenne de rentabilité de tout votre compte publicitaire. Le coût marginal, c'est de savoir exactement combien va vous coûter le prochain euro que vous allez dépenser. Et l'image qui me vient tout de suite en lisant les rapports, c'est celle du citron qu'on essaye de presser.
J'aime bien cette idée. Tu peux développer ?
Bah, quand vous lancez vos pubs au début, avec vos premiers 8000 euros de budget, c'est comme presser un citron tout frais. C'est hyper facile, le jus coule tout de suite sans forcer. Vous touchez les clients qui étaient déjà presque à acheter.
Les plus intentionnistes, ouais.
Voilà. Mais quand Marc passe de 8000 à 14 000 euros de budget, son citron est déjà pressé à 80%. Et pour obtenir le reste du jus, il doit serrer la main de toutes ses forces, dépenser une énergie folle et un budget dingue pour finalement faire tomber une seule goutte très amère.
Et cette goutte, elle coûte une fortune.
Exactement. C'est son coût marginal qui explose.
Et c'est exactement le mécanisme algorithmique qui se cache derrière ce qu'on appelle l'élasticité publicitaire dans notre jargon.
L'élasticité, en gros, c'est comment les ventes réagissent quand on change le budget.
C'est ça. Quand on augmente fortement le budget, les plateformes comme Google ou Meta épuisent très vite le bassin des acheteurs hyper qualifiés.
Le jus facile.
Et pour réussir à dépenser votre argent supplémentaire, l'algorithme est obligé de montrer vos publicités à des audiences de plus en plus froides, de moins en moins pertinentes. Du coup, vous payez vos clics au prix fort, mais ces gens-là convertissent beaucoup, beaucoup moins bien.
Et les chiffres de nos sources sont impitoyables là-dessus. Il y a cette méta-analyse de Setura Mann et de son équipe. Ils ont épluché pas moins de 751 cas d'élasticité publicitaire.
Un travail titanesque.
Et le résultat, il est brutal. À long terme, l'élasticité publicitaire n'est que de 0,24.
Oui, il faut vraiment comprendre l'implication mathématique de ce chiffre de 0,24. Ça signifie que si vous prenez le risque financier énorme de doubler votre budget publicitaire, donc une augmentation de 100% de vos dépenses, la croissance maximale de vos ventes due à cet effort ne dépassera jamais les 24%.
Attends, c'est fou. Ça veut dire que le mythe du « je mets 2 euros dans la machine publicitaire et il en sort 4 à l'infini », bah, c'est terminé. Scaler, donc grandir uniquement en injectant toujours plus d'argent dans les ads, c'est un gouffre.
Un gouffre total.
Mais alors, je me mets à la place des fondateurs qui nous écoutent. Si on sait que chaque nouvel euro risque de détruire notre marge à cause de ce coût marginal, comment on sait où s'arrêter? C'est quoi la méthode pratique?
C'est ce que les praticiens appellent la règle du pot bloqué. Et franchement, c'est un changement de paradigme très profond.
Le pot bloqué.
Ouais. Il ne s'agit plus de faire des ajustements au feeling, genre « Tiens, on a fait des bonnes ventes hier, on va rajouter 500 euros aujourd'hui ». Non, le pot bloqué, c'est de définir un plafond absolu, strict et totalement non négociable pour le budget ads mensuel.
D'accord.
Et la règle vitale qui accompagne ce plafond, c'est que tout l'argent disponible qui le dépasse ne doit en aucun cas être réinjecté dans la pub.
Mais comment on calcule ce fameux plafond? Si on reprend notre marque de tout à l'heure, lui, il veut faire 40 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Il a besoin de 15 % de marge nette pour que son entreprise survive, et son vrai retour sur investissement net, après correction des biais, est de 3. Comment il fait?
C'est un calcul d'ingénierie inversée, en fait. Au lieu de partir du budget qu'on a envie de dépenser, on part de la rentabilité qui est exigée.
On fait le chemin à l'envers.
Exactement. En croisant sa marge cible de 15%, son objectif de revenu de 40 000 euros et son ROS net de 3, on détermine la somme mathématique maximale qu'il peut perdre en acquisition sans attaquer ses bénéfices vitaux.
Et l'audit a révélé ce chiffre pour Marc.
Oui. Son plafond absolu, son pot bloqué, est de 8 800 euros. Pas un seul centime de plus.
C'est un sacré électrochoc. Hein. Le mec dépensait 14 000 euros tous les mois alors que son seuil critique de rentabilité était à 8 800 euros.
Il brûlait son entreprise à petit feu.
Mais là, j'ai un doute. Honnêtement, si je gère une boutique, je suis terrifiée à l'idée de couper presque la moitié de mon budget ads du jour au lendemain. C'est évident que mes concurrents vont immédiatement prendre ma place tout en haut des résultats de recherche.
C'est la peur classique, la peur du manque à gagner. Mais il faut regarder ça sous le prisme de la rentabilité et pas de la vanité.
C'est-à-dire ?
Bah, si vos concurrents prennent votre place tout en haut en dépensant sans compter, en fait, ils vont payer des clics hors de prix pour des clients qui vont très mal convertir. Laissez-les s'épuiser financièrement sur ce trafic non rentable. Votre objectif, ce n'est pas d'être premier partout sur Google, c'est d'être rentable sur chaque vente que vous faites.
Ouais, là, c'est un peu comme un loyer, non?
Exactement. C'est un loyer que vous payez tous les mois à Google ou à Meta. Si le loyer devient beaucoup trop cher pour ce que l'appartement vous rapporte concrètement, bah, vous déménagez.
D'accord, je vois. Mais une fois qu'on a fermé ce pot bloqué à 8 000 euros, est-ce qu'on le réouvre un jour ou on le laisse fermer à vie?
Non, on peut le réouvrir, mais il faut que 3 conditions de sécurité soient réunies simultanément et c'est très strict.
Lesquelles?
1. Le coût marginal de votre SEO, amorti sur 12 mois, doit être au moins 30% supérieur au coût marginal de vos publicités. 2. Le coût par clic de votre catégorie de produits doit avoir baissé de 15% minimum sur 2 trimestres consécutifs.
Ce qui n'arrive presque jamais aujourd'hui.
C'est rare, oui. Et la troisième condition, c'est que votre marge nette mensuelle doit être solidement au-dessus de votre seuil plancher depuis au moins 2 trimestres. Si ces 3 voyants ne sont pas au vert, on ne touche pas au pot bloqué.
Ce n'est plus du marketing aux doigts mouillés, là. C'est de la chirurgie financière.
C'est exactement ça.
Alors, la question logique qui suit, cet argent qu'on ne donne plus en loyer à Google tous les mois, on en fait quoi? On le met sur un compte épargne?
Ah non, sûrement pas. On l'investit pour construire son propre bâtiment. Ce budget excédentaire, on le transfère obligatoirement vers le SEO. Mais attention, pas n'importe quel SEO. Un type très précis, le SEO orienté sur le catalogue de la boutique.
D'accord, là, il faut vraiment qu'on clarifie. Parce que le SEO traditionnel pour un site e-commerce, en tout cas ce qu'on nous vend depuis 10 ans, ça a toujours été d'ouvrir un blog. On paye des rédacteurs pour pondre des tartines d'articles du type « Les 10 secrets de l'aloe vera » ou « Comment choisir sa crème de nuit en hiver ».
Et c'est exactement ce qu'il ne faut absolument plus faire en 2026.
Le blog est mort.
Le SEO de papa est mort, ouais. Et il a été foudroyé par un changement technologique majeur. Les AI Overviews de Google.
Les AI Overviews, c'est le gros bloc de texte généré par l'IA qui donne la réponse directement en haut de la paille sans qu'on ait besoin de cliquer sur un lien.
Précisément, l'IA de Google lit votre article et donne le résumé à l'utilisateur. Et les données qu'on a analysées sont sans appel. Sur toutes ces requêtes dites informationnelles, tu sais, celles que ciblaient traditionnellement les articles de blog, l'impact est juste dévastateur.
L'utilisateur ne clique plus.
Banon guide. Il pose sa question sur sa routine beauté du matin. L'IA lui recrache la réponse parfaite, il est super content et il ferme la page. Résultat direct, le taux de clic organique vers les articles de blog a chuté de 71%.
71% de trafic en moins.
Et même les annonces payantes sur ces requêtes d'information ont vu leur taux de clic s'effondrer de 68%. Le trafic de curiosité s'est littéralement évaporé.
Mais c'est fou. En clair, on paye des rédacteurs une fortune pour nourrir gratuitement l'intelligence artificielle de Google sans recevoir aucune visite sur notre boutique en échange.
C'est exactement ce qui se passe.
Mais alors si ces AI Overviews mangent tout le trafic, pourquoi tu dis qu'il faut investir dans le SEO du catalogue? C'est le même moteur de recherche, non? Pourquoi le catalogue serait épargné?
parce que l'intention de l'utilisateur est différente. Et ça, Google le sait parfaitement. Quand on observe les requêtes dites « shopping », donc les requêtes vraiment commerciales, où l'utilisateur cherche un produit précis à acheter, devine quoi ? Les AI Overviews ne s'affichent que dans moins de 3% des cas.
Attends, moins de 3%. Pourquoi Google désactive son IA sur ces recherches-là ?
Parce qu'une intelligence artificielle qui génère du texte brut ne peut pas remplacer l'expérience visuelle du e-commerce. Si tu tapes « acheter sérum anti-âge à l'acide hyaluronique », bah tu ne veux pas lire un paragraphe de texte philosophique sur le sérum.
Non, je veux voir des produits.
Voilà, tu veux voir une grille avec des flacons, comparer des prix, lire des petites étoiles d'avis clients, savoir si c'est en stock. Et Google l'a très bien compris pour son propre business. C'est pour ça que sur les requêtes commerciales, l'engagement des utilisateurs fait x2,3. Et sur les requêtes purement transactionnelles, l'engagement est carrément multiplié par 7. Il passe de 1,98% à près de 14%.
Ce qui amène l'audit de nos sources à dégager une nouvelle règle d'or pour remplacer l'ancien dogme du 70-30. C'est le fameux ratio 15-85. Est-ce qu'on peut décortiquer ce ratio ?
Bien sûr. Sur plus de 40 boutiques Shopify analysées en profondeur, la conclusion est claire. Le temps, l'énergie et surtout le budget alloué au blog de la boutique ne doivent plus jamais dépasser 15% du total SEO.
D'accord. C'est très minoritaire.
Les 85% restants doivent être injectés massivement et directement dans l'optimisation des pages catégories et des fiches produits du catalogue.
Et mathématiquement, ça se justifie très bien par les taux de conversion. Un article de blog va cibler une poignée de mots-clés de très longue traîne et va convertir, aller au mieux, entre 1 et 3% des visiteurs qui tombent dessus par hasard pour se renseigner.
Au grand maximum.
Alors qu'une page catégorie bien construite sur un Shopify, qui agrège 50 à 100 mots-clés de gens ultra-intentionnistes qui cherchent à acheter, ça convertit entre 8 et 15%. Franchement, il n'y a pas photo au niveau de la rentabilité.
Exactement.
Mais concrètement, on fait quoi de nos journées avec ces 85% du budget ? On optimise quoi, en fait ?
On construit un SEO scalable, un truc massif, qui repose sur 3 briques incontournables pour un catalogue e-commerce.
Ok, la première brique.
Vous seriez surprise de savoir que 91% des flux actuels sont sous le seuil de qualité minimum requis par Google Ads.
Qu'est-ce qui cloche dans ces flux en général ? Pourquoi ils sont si mauvais ?
Oh, bah c'est souvent basique. L'absence des codes-barres officiels, les fameux GTIN, des titres de produits qui sont tronqués au milieu ou des images mal dimensionnées. Or, le simple fait d'avoir un flux technique irréprochable avec de bons codes GTIN, ça booste le taux de clic de 20%.
Juste en mettant le bon code barre.
Oui. Et financièrement, la différence sur le terrain est majeure. Selon les sources, une session d'un client issu de l'onglet Shopping vaut en moyenne 5,38$ en revenus, contre seulement 1,78$ pour un clic classique depuis la recherche textuelle.
D'accord. Donc on répare d'abord la tuyauterie technique. Et la deuxième brique de ces 85%,
ce sont les pages collection, les fameuses catégories de produits. En fait, il ne s'agit plus juste d'avoir une page web qui s'appelle crème visage avec 12 produits jetés là au hasard.
Ça ne suffit plus.
Non, il faut un vrai contenu éditorial propre à cette collection, un maillage interne hyper intelligent entre les pages et surtout l'intégration de données structurées. Le fameux schéma.org.
Alors, schéma.org, ça sonne vraiment comme du gros jargon de développeur. Pour un fondateur ou une fondatrice qui nous écoute et qui ne code pas, comment on explique ça simplement ?
Alors, imaginez que les robots de Google qui scannent votre site tous les jours sont des lecteurs très très rapides, mais qui sont un peu aveugles au contexte.
Ok.
S'ils voient le chiffre 45 sur une page de votre boutique, ils ne savent pas si c'est un prix en euros, si c'est une contenance en millilitres ou si c'est le nombre total d'avis de vos clients. Schéma.org, c'est une sorte de traducteur universel qui est invisible pour les humains à l'écran, mais qui est intégré en dur dans le code du site.
Et il fait quoi ce traducteur schéma.e.e ?
Il murmure directement à l'oreille du robot en lui disant « Ceci est le prix de l'article, ceci est la note moyenne sur 5 et ce produit est actuellement en stock ». Et quand le robot de Google a cette certitude absolue grâce aux balises de données structurées, il récompense la page. Il l'affiche plus haut dans les résultats et avec des éléments visuels riches qui attirent l'œil.
Ah, c'est limpide! Et donc la troisième et dernière brique du catalogue.
C'est la fiche produit en elle-même. Les descriptions de produits doivent être 100% uniques. Fini les copier-coller feignants des catalogues fournisseurs, ça détruit votre référencement depuis des années.
Le fameux duplicate content.
Exactement. Il faut ajouter des attributs ultra détaillés et surtout intégrer les FAQ, les foires aux questions, directement sur la fiche produit. Le but, c'est de lever les tout derniers freins à l'achat du client sans qu'il n'ait besoin de quitter votre site pour retourner sur Google chercher la réponse à sa question.
Ce qui m'amène à une question un peu abrupte, mais très concrète. Est-ce que les marques e-commerce qui nous écoutent doivent licencier dès demain leur rédacteur web qui faisait des articles de blog classiques ?
Non, pas les licencier, mais il faut pivoter d'urgence. Leurs compétences de rédaction, elles sont toujours hyper précieuses, mais elles doivent être réaffectées là où est l'argent.
Sur les fiches produits, du coup.
Voilà. Au lieu de payer un rédacteur pour écrire un 200e article sur les bienfaits de l'hydratation de la peau, demandez-lui d'écrire 50 descriptions de produits de votre catalogue qui soient ultra persuasives pour le client et techniquement parfaites pour Google. C'est un vrai changement de logiciel en fait. On arrête de financer l'IA de Google avec des articles gratuits et on finance enfin l'actif de sa propre entreprise.
Et pour remettre toutes ces pièces du puzzle dans le bon ordre, les documents que nous analysons proposent une méthodologie redoutable pour passer à l'action. Ils appellent ça le cadre VEC. Comment ça s'articule sur le terrain ?
Le cadre VEC, c'est la fin du marketing émotionnel. C'est fini. C'est une discipline militaire qui tient dans la surveillance stricte de 4 chiffres clés et dans la prise d'une seule décision.
Ok, c'est quoi ces 4 chiffres ?
Les fondateurs doivent arrêter de regarder le nombre de j'aime sur Instagram ou les petites fluctuations journalières du chiffre d'affaires. Ça ne sert à rien. Ils doivent mesurer avec une précision obsessionnelle 1. Leur coût par clic réel. 2. Leur marge nette réelle une fois que tous les frais de l'entreprise sont payés.
Jusqu'au dernier carton d'emballage.
C'est ça. 3. Le taux de conversion exact, mais trié par source d'acquisition. Et 4. La LTV, donc la valeur à vie d'un client, calculée sur 12 mois.
Ça fait une belle matrice. Et une fois qu'on a ces 4 chiffres, c'est quoi la décision qui suit ?
Elle est binaire. Si on relie ça à une vision plus globale de la rentabilité, on compare simplement le coût marginal de ses publicités avec le coût marginal de son SEO catalogue amorti sur l'année. Dès que la pub commence à vous coûter plus cher à la marge que le SEO pour faire venir le prochain client,
on coupe
les taux. On verrouille le pot bloqué dont on a parlé et on ne touche plus à rien sur les campagnes publicitaires pendant tout un trimestre. C'est littéralement la seule façon de passer d'une stratégie de volume, qui flatte juste l'ego du dirigeant, à une stratégie de marge qui enrichit réellement l'entreprise à la fin du mois.
Il faut une discipline de fer, hein ? Je suppose que c'est psychologiquement très dur pour un fondateur de voir le rythme de ses ventes ralentir un tout petit peu au début et de devoir se retenir de ne pas rajouter 1000 balles sur Facebook ou Google Ads pour relancer la machine.
C'est le plus dur, le sevrage est terrible. Mais ça paye.
Bah oui, ça paye. Et pour boucler la boucle, regardons ce qui est arrivé à notre fameux Marc, 6 mois après avoir subi cet audit de ses comptes et avoir appliqué ce cadre VEC avec rigueur. Ses dépenses publicitaires, on l'a vu, elles ont été ramenées à la raison. De 14 000 euros de dépenses frénétiques, il est tombé à 700-800 euros par mois.
Et son budget SEO ?
En parallèle, tout l'argent économisé sur les pubs est allé massivement dans l'optimisation de son catalogue Shopify. Son budget SEO est passé de 2 000 à 9 200 euros mensuels.
Et le résultat sur son bilan comptable, 6 mois plus tard ?
C'est là que c'est absolument brillant. Son chiffre d'affaires mensuel n'a pas explosé. Il est resté hyper stable en oscillant tranquillement entre 40 000 et 40 500 euros par mois. De l'extérieur, un observateur pourrait dire que la marque de Marc stagne.
Ouais, mais en interne ?
En interne, sa marge nette a fait un bond spectaculaire. Elle est passée de 15% à 21%. C'est 6 points entiers de rentabilité pure qui ont été gagnés sur exactement le même volume de vente.
C'est énorme pour la trésorerie.
Et son ROAS Ads, qui était désastreux à 2,6, parce qu'il achetait à prix d'or du trafic poubelle au fond de la cuve algorithmique, bah il est remonté mécaniquement à 3,8. Tout simplement parce qu'il ne paie plus que pour les clics vraiment qualifiés.
En fait, il a juste arrêté d'enrichir les grosses plateformes publicitaires américaines pour commencer à construire un véritable actif durable autour de son propre site.
L'histoire de Marc illustre parfaitement la résilience que permet cette nouvelle approche. C'est salvateur.
Complètement. Mais ça amène forcément une réflexion un peu plus large pour terminer notre analyse d'aujourd'hui. Nous venons de démontrer par A plus B comment sauver ses marges aujourd'hui, en misant tout sur le catalogue et en abandonnant le blog classique. Mais si l'intelligence artificielle continue de vampiriser les recherches d'informations de cette manière, est-ce que le contenu éditorial e-commerce est voué à disparaître totalement ? Ou bien est-ce que le blog va devoir muter, peut-être devenir une vraie plateforme communautaire, ou adopter un format vidéo interactif, juste pour exister en dehors du diktat absolu de l'IA de Google ?
Ah, ça c'est une excellente piste de réflexion pour l'avenir de l'e-commerce. C'est le prochain défi stratégique.
Absolument, un défi que les marques vont devoir anticiper très vite.
Et pour le présent, pour les fondateurs Shopify qui se reconnaissent dans la panique initiale de marques et qui voient leurs marges fondre, le conseil final tiré des documents qu'on a épluchés aujourd'hui est extrêmement clair. Posez-vous. Faites ce fameux pré-audit VOC vous-même. Calculez votre vrai coût marginal de demain. Définissez votre marge de cible indispensable et trouvez le montant mathématique exact de votre propre pot bloqué. Faites tout ça sérieusement avant de dépenser un seul euro de plus sur Google ou Meta. Arrêtez de presser ce citron jusqu'à l'épuisement et reprenez enfin le contrôle de vos marges.